Aujourd'hui, la masterclass d'Ian McEwan avec Sylvain Bourmeau.
Je suis très, très heureux qu'on soit là ce soir avec vous, Ian McEwan, pour cette rencontre, l'occasion de parler de littérature au moment où paraît en français un nouveau roman, ce qui est toujours un événement et l'occasion, au-delà de ce roman, de parler d'une œuvre qui est celle désormais d'un écrivain, j'allais dire classique contemporain, puisque votre œuvre figure au programme non seulement des universités britanniques depuis longtemps, mais même de l'enseignement secondaire, que vous êtes très largement lu dans votre pays et bien au-delà, traduit dans des dizaines de langues. Vous nous disiez à l'instant que votre œuvre traduite entre à la British Library ce mois-ci, c'est-à-dire un nombre très considérable de volumes, puisque ce sont beaucoup de romans, de recueils de nouvelles, de scénarios, un livre pour enfants, de l'opéra, enfin des choses variées qui ont été pour la plupart traduites dans beaucoup de langues. On va avoir l'occasion aujourd'hui de parler de ce roman, mais une machine comme moi, Machines Like Me, People Like You, en anglais. Mais on va avoir l'occasion de parler plus généralement de votre travail, et c'est Marguerite Capelle qui va assurer la traduction. Je voudrais commencer, Ian McEwan, par vous poser la question de votre rapport au temps et la manière dont ce rapport au temps a pu justement précisément changer dans cette période. Ça fait exactement 45 ans que vous publiez des livres. C'est assez considérable. Ça fait 25 ans que j'ai le bonheur de pouvoir en parler avec vous. J'imagine que vous ne regardez pas le temps de la même manière aujourd'hui qu'en 1975 quand paraissait votre premier recueil de nouvelles. Et que c'est peut-être ce rapport au temps différent qui vous a permis l'audace pour ce roman nouveau d'imaginer ce qu'on appelle une littérature contrefactuelle.
Well, it's true that when I was a writer in my early 20s, I think of myself as a little ant crawling along a straight line from left to right.
Alors c'est vrai que quand j'écrivais au début de la vingtaine, j'étais une sorte de petite fourmi qui avançait en ligne droite.
Working in Newtonian linear time, my short stories began at A and they ended at Z. And I was very timid with time itself. And I didn't really begin to expand until I expanded in other ways too, with a novel called A Child in Time, L'Enfant Volé, it was in French. And that was specifically a novel about time.
J'avais un rapport au temps qui était très linéaire, très newtonien, et mes nouvelles se déroulaient d'un point A à un point Z. Donc j'avais une approche finalement assez timide du temps, et pour étendre cette approche du temps, il a fallu que je me développe moi aussi d'autres manières. Et ça a commencé avec un roman qui en français s'appelle L'Enfant Volé, un roman qui parle du temps, justement, qui parle du rapport au temps, de la manière dont, dans les situations d'urgence, le temps peut ralentir, alors qu'à d'autres au moment, sur le temps long, justement, parfois au contraire, il peut sembler s'accélérer. Il y a un personnage qui est en prison pendant des années. Ces années, rétrospectivement, semblent passer extrêmement vite parce que tous les jours se ressemblent, même si évidemment, dans l'instant, ce n'était pas exactement la même chose. Donc c'est vraiment le moment où j'ai commencé à me développer en tant qu'écrivain et où, au fur et à mesure, j'ai pu découvrir toutes les libertés que je pouvais prendre avec le roman, le temps, la manière dont je pouvais justement le dérouler, le développer de façon extrêmement progressive. Et c'est là où je me suis intéressée d'ailleurs aussi à un physicien italien qui s'appelle Carlo Rovelli, en voyant un certain nombre de similarités dans la relativité du temps en physique et dans les dimensions mécaniques aussi du temps tel qu'il se déploie dans un roman.
Could I just add that I think the novel is a very finely attuned instrument to examine time in subjective terms. In movies we have slow motion, but within the novel you can have explication of half a second in someone's life, of all the thoughts, of all the possibilities of everything that's closed off, that everything that's
opened up. Ce que je voudrais ajouter, c'est que je trouve intéressant dans le roman le fait que c'est un instrument extrêmement fin pour permettre d'analyser le temps d'un point de vue extrêmement subjectif. Par exemple, quand on fait un film, on peut utiliser le ralenti. Dans le roman, on a la possibilité d'expliciter, d'expliquer une demi-seconde de la vie d'un personnage, d'explorer en fait toutes les pensées, tous les possibles, toutes les pistes qui s'ouvrent, qui se ferment dans ce demi-instant de vie.
And one example in my own work was the beginning of Enduring Love, where there's a balloon accident, where something happens with the balloon and a child is trapped in it and they're trying to land it in a high wind, and the two central characters of the novel go running towards it.
Il y a un exemple, par exemple, c'est dans mon roman Délire d'amour, ou qui s'ouvre sur un accident de montgolfière où deux personnages vont se ruer pour essayer d'aider la montgolfière qui a du mal à atterrir avec des vents très forts. Et en fait, on peut figer ce moment et l'explorer dans toutes les directions, voir toutes les réactions, tous les personnages autour de ce moment-là. Et ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, pour découvrir toutes les libertés que je pouvais prendre avec le roman dans ce genre de questions.
The 20th century began with Proust's dissection of time, and really, like scientists, we stand on the shoulders of other writers in this possibility. And I think the other great master of time, apart from Proust, was Joyce. Joyce gave us.
Le XXe siècle s'est ouvert avec la manière dont Proust disséquait justement le rapport au temps. On doit beaucoup à nos prédécesseurs, comme les scientifiques. Et un autre grand maître de ce rapport au temps, c'est aussi Joyce, qui nous a donné énormément à réfléchir sur la manière dont on pouvait observer le développement d'une conscience dans le temps, les différentes perspectives sur le temps. Et d'ailleurs, les deux se sont rencontrés et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Peut-être qu'ils avaient tellement de choses à échanger qu'il ne pouvait pas se passer grand-chose.
Je disais à Ian McEwan pour vous présenter que vous étiez un classique contemporain, et dans ces deux mots, on retrouve au fond deux dimensions souvent présentes dans vos romans. Certains de vos romans se passent dans le passé, à certaines séquences, dans certaines séquences historiques, et d'autres sont véritablement happés par ce qu'il y a de plus actuel dans l'époque que nous traversons. Vous êtes toujours extrêmement attentif au présent. Et là, vous avez réussi, avec une machine comme moi, à faire les deux choses à la fois, en imaginant ce roman contrefactuel qui se passe dans l'histoire, mais qui incorpore des éléments qui sont les éléments les plus contemporains, et en particulier des techniques qui sont devenues nos techniques quotidiennes, même plus que ça, les téléphones portables, l'Internet, bien évidemment, la grande mutation numérique que nous traversons, vous la faites se dérouler au début des années 80. Comment est née cette idée de faire se rencontrer ces deux temporalités?
Well, I think of novels always as being constructed from the ground upwards. And so here I began with the great master of computer science and mathematics, Alan Turing, who committed suicide in 1954. He probably did more than any single individual to shorten the Second World War with his work on breaking German codes. And his country repaid him by persecuting him for being a homosexual. And he was either faced with the choice of prison or chemical castration.
Alors moi j'ai tendance à voir les romans comme étant construits en partant du sol pour ensuite monter dans les étages, monter en hauteur. Et je suis partie en fait d'une grande figure des mathématiques et des sciences qui est Alan Turing, qui s'est suicidé en 1954 et qui est probablement la personne qui a le plus fait pour raccourcir la Seconde Guerre mondiale en décodant les codes allemands justement, et qui a été récompensé de cette bravoure en étant persécuté pour son homosexualité. On lui a laissé deux choix, soit la prison, soit la castration chimique, ce qu'il a choisi.
And I thought I would like to give him the life that he could or should have had, and to live into the digital age and see many of his own speculations about machine intelligence come to life. And I wanted to stay with the facts So I made him an old man, but not too old. I wanted him to be a kind of toddler in the art of being old. So he's 70, which brings us to 1982.
Et j'ai voulu lui donner la vie en fait qu'il aurait dû avoir, et lui permettre de connaître l'ère du numérique et de voir toutes les technologies qu'il a contribué à imaginer, et en particulier l'intelligence artificielle, advenir, prendre vie. Donc j'avais besoin qu'il soit évidemment, il serait évidemment âgé au moment où ça se produirait, mais je voulais pas qu'il le soit trop. Je voulais qu'il soit encore un petit peu débutant en matière de vieillesse. Donc j'ai décidé qu'il aurait 70 ans et ça me donnait 1982. Et à partir de là, il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent s'ouvrir. Si on veut que son roman s'éloigne un petit peu de l'histoire, qu'il y ait une dimension de spéculation possible, le passé contrefactuel est l'outil le plus intéressant, puisque c'est un passé donc qui ne s'est pas produit et qui peut donner un goût assez similaire à celui de la science-fiction, mais sans la dimension de prédiction que donne la science-fiction, qui doit forcément prédire qu'elle essaye de le faire intentionnellement ou pas. Et puis là, je me suis aperçue que c'était surtout très très amusant de réécrire toute la politique britannique.
I was also interested in the way that when marvelous technologies come along, almost immediately we take them for granted. The train that goes at 400 kilometers an hour is overcrowded and smelly and a burden, and very soon you forget that it's a technological wonder. Technology becomes grubby and every day.
Une autre chose qui m'intéressait, c'était de m'apercevoir que toutes les merveilles technologiques qui sont créées, on les prend assez rapidement, on les trouve finalement assez rapidement normales. Un train qui va à 400 km/h va finir surpeuplé, sale, sentant mauvais, et on oublie en fait à quel point il s'agit d'une merveille de technologie. L'exemple qui me vient en tête, c'est quand j'étais à New York il y a des années, et où à Manhattan, je demande à un ami pourquoi il y a toutes sortes de personnes qui font la queue, tout un groupe de personnes qui font la queue, et on m'explique que c'est pour acheter l'iPhone 3, ce qui semble complètement ridicule et méprisable aujourd'hui, mais les gens continuent à faire la queue pour acheter l'iPhone 11, donc comme quoi l'histoire n'avance pas là-dessus.
So the other thing that interests me too is how the present is completely unpredictable from the point of view of the past, and that what we have now, right here, is a completely improbable construct. It could never have been predicted. These particular people in this room at this time and our social, political, individual realities. So once you start playing with that and see how easily everything could be otherwise, which I suppose is what all novelists are doing anyway, but once you start playing with that consciously, all sorts of possibilities open up. And I really had to restrain myself, because this is a backstory where the streets are clogged with autonomous cars and drivers are just falling asleep at the wheel. Well, it will just be as boring as any traffic jam that you have now. So it's that fact that the realities we make, especially now with the constant invasion.
L'autre chose qui m'intéressait, c'est que le présent est complètement imprévisible du point de vue du passé. C'est-à-dire que la vie que nous vivons aujourd'hui, avec toutes ces conditions sociales, économiques, etc., toute sa réalité pourrait être totalement différente. Et donc on peut jouer avec ça, ce qui est évidemment ce que font tous les romans. Ça donne toutes sortes en fait de possibilités, à tel point que j'ai même dû finalement me restreindre, parce que cette histoire-là, ça reste quand même un arrière-plan pour le roman. Mais la réalité que nous créons avec toute notre intelligence, l'intelligence artificielle, etc., toutes les astuces qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est peut-être nous qui la créons, mais pour autant, on ne peut pas du tout prédire dans quelle direction elle va partir. Et c'est ça qui m'intéressait.
On sent que vous vous êtes beaucoup amusé, vous l'avez dit à mi-mot, en imaginant cette situation et en faisant cet exercice contrefactuel. Mais on sent qu'au fond, au-delà du plaisir de l'écriture, il y a un enjeu pour vous avec ce type de roman écrit aujourd'hui, qui est celui de saisir le moment que nous traversons, qui est assez vertigineux du point de vue de cette mutation numérique que nous traversons, et en particulier de notre incapacité à véritablement saisir les usages qui seront faits des technologies. Mais là où beaucoup de romanciers ou réalisateurs de cinéma ou de séries télévisées donnent dans l'anticipation, qu'il s'agisse d'ailleurs de la mutation numérique ou de questions environnementales avec les fictions collapsologiques, vous avez inventé un dispositif d'expérience, au fond, qui me semble beaucoup plus subtil et en même temps beaucoup plus efficace pour penser notre présent technologique, qui est ce recours au contrefactuel, qui est ce fait de mettre en 1982, c'est-à-dire dans l'Angleterre de Margaret Thatcher, de cette guerre des Malouines, comme on dit en français, et des Falklands en anglais, dans l'Angleterre de la grève des mineurs et des caisses de grève qui résonnent assez fort aujourd'hui. Ce rapport aux technologies que nous entretenons aujourd'hui, est-ce que vous seriez d'accord pour dire au fond que c'est un dispositif de connaissance que vous avez organisé avec cette forme romanesque?
I think this is a very interesting question. How is it that a rather pre-digital 400-year-old form should find itself rather well suited to slowing down the imagination to a kind of thoughtfulness about where we are, because it seems as if we're on a slide. There is a sense now of history in the present unfolding in such unpredictable ways. Only last week we were expecting a possibility of a war between Iran and the United States. Maybe only by a hair's breadth we avoided it. And we stand as spectators in this process.
C'est une question très intéressante de savoir pourquoi notre forme pré-âge numérique, justement, le roman qui a 4 siècles déjà, peut s'avérer assez subtil pour ralentir la réflexion sur le point où on arrive, l'endroit où on en est, parce qu'on a justement l'impression d'être embarqué sur une espèce de toboggan et qu'il est particulièrement prégnant en ce moment, ce sentiment que l'histoire est en train de se dérouler en temps réel et de partir dans des directions qui peuvent être extrêmement imprévisibles. Encore la semaine dernière, on avait la possibilité d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis, auquel on a peut-être échappé de très peu.
I think, I mean, just to touch on artificial intelligence, I think we are on the edge of a civilizational shift. We are now all carrying around with us very powerful computers. We're looking at them 50 times a day. It's already, I think.
Pour revenir aussi à la question de l'intelligence artificielle, je suis persuadée qu'on est à l'orée d'un véritable changement de civilisation. On a déjà tous des ordinateurs extrêmement puissants qu'on emmène partout avec nous et qu'on consulte 50 fois par jour. Je pense que ça a déjà modifié qui nous sommes. Et c'est pas vraiment un choix qu'on a fait, même si on a l'illusion de choisir quand on fait la queue pour son iPhone.
Somehow, the novel, which should have died 30 years ago with television, with film, with radio, and so many competing amusements, has somehow managed to hang on. And I'm particularly interested in reflecting on how these massive movements penetrate private lives. And I guess it's that interface of the social and the world historical and,
et en même temps, il y a d'autres formes de divertissement, il y a un foisonnement, la radio, la télé, d'autres formes qui continuent à tenir bon. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toutes ces formes-là ont un impact, en fait, sur la vie intime des personnes et des personnages. Et c'est vraiment cette interaction entre ces évolutions technologiques, l'état du monde, avec une histoire d'amour, avec une amitié qui est en difficulté, etc., que le roman représente un outil extrêmement utile en fait pour explorer tout ça, à la fois parce qu'il a une dimension qui peut tourner à l'essai et en même temps aussi parce qu'il a la possibilité narrative de développer les personnages. Quand je termine un roman aujourd'hui, en général j'ai la tête complètement vide et je ne sais pas ce que je vais faire après.
And I've decided that I'm quite good at not writing and I like to leave this a pause. Because I think one of the most important elements of creativity is hesitation. And we are now moving at such a pace that if you stop writing for, say, 9 months, it's not only that the world has shifted, you find that yourself has shifted, your own preoccupations, but also your own hold on reality is either loosened or tightened or shied away or become obsessive. And it's that's then become very much built in, sewn into my own sense of reflecting on the process.
Et en fait, j'ai découvert que j'étais assez douée pour ne pas écrire, et donc j'ai décidé de faire une pause parce que il me semble aussi qu'un élément important de la créativité, c'est aussi l'hésitation, et qu'aujourd'hui on vit un rythme tel que rien qu'en en cessant d'écrire pendant 9 mois, non seulement le monde évolue, mais vous évoluez aussi. Votre rapport au monde, à la réalité, peut se détendre, devenir plus obsessionnel sur tel ou tel sujet. Donc c'est vraiment quelque chose maintenant qui est partie prenante de ma réflexion sur le processus d'écriture.
I think there was a looking back over the novel in the 20th century, there was a long time when we lived in the shadow of the great experiments of modernism. And in that shadow, I think the novel began to lose its way because it decided that what was happening in the present was really for journalists, and that the novel really had to settle down onto pure existence and to irony. In the United States, I think they kept alive a 19th century notion that there was a duty to tell us something about the conditions of modernity, of living in a city, of living in mass transport, of living in a time when millions could move across the face of the earth in airplanes and cheap flights, and the sexual revolution and so on.
Pour faire un retour sur le roman du début du XXe siècle, je pense qu'on a longtemps vécu, dans l'ombre de la grande expérimentation du roman moderniste, mais que, quelque part, le roman a aussi perdu sa voix, perdu ses repères, puisque ce qui se passait dans le monde actuel était vu comme quelque chose qui ne devait plus intéresser que les journalistes, alors que le roman, lui, devait s'atteler à décrire l'existence de façon extrêmement pure et théorique. Alors que les Américains, peut-être, ont réussi à conserver davantage la tradition du roman du 19e siècle, où on sentait le devoir d'analyser la condition moderne, ce que c'était que de vivre aujourd'hui dans des villes, d'avoir des millions de personnes qui se déplacent partout, la révolution sexuelle, etc. Donc peut-être, pour conclure sur deux choses importantes, je pense qu'il faut qu'on revienne aux grandes leçons du 19e siècle, et notamment la façon de définir les personnages, de les délimiter, et de nous faire ressentir ce que c'est que de vivre la vie qu'ils vivent à ce moment-là. Et en même temps, de l'autre côté, la réflexion sur l'impact des technologies sur la vie intime. On ne peut pas abandonner non plus les apports du modernisme, de la manière dont ça a changé notre rapport à la conscience et la façon de l'écrire, de la même façon qu'on n'arrêtera pas d'écouter Mozart. Donc ramener du Tolstoï, du Flaubert, dans la manière dont on définit les personnages et on décrit les consciences sans ignorer cet héritage moderniste, ce sera mon manifeste pour aujourd'hui.
Vous disiez à l'instant, Ian McEwan, que vous étiez assez bon quand il s'agissait de ne pas écrire. Ça vous est relativement peu arrivé au cours des 45 dernières années. Vous avez publié un livre tous les 3 ans à peu près. Mais quand vous lisez, quand vous n'écrivez pas, j'imagine que vous lisez encore davantage. Et je me demandais quel lecteur vous étiez, et notamment s'agissant de comprendre ce qui nous arrive. Est-ce que vous êtes davantage un lecteur de journaux ? Vous parliez du rapport à l'actualité ou du partage des tâches entre le journaliste et l'écrivain, un lecteur de publications scientifiques qui sont très importantes. Vous parliez de votre proximité avec Carlo Rovelli à l'instant, mais la science est l'un des éléments centraux de votre œuvre. Ou est-ce que vous êtes aussi un lecteur de fiction, de littérature, de romans ? Est-ce que vous trouvez chez vos collègues contemporains d'autres manières de penser ce monde dans lequel nous sommes?
Well, I'm a slow reader and a very restless reader. And yes, that cushioning time between novels is a marvelous privileged time to just read wherever you want. And I'm a newspaper junkie because Britain has been going through this existential crisis of Brexit. That has intensified. So I've been deeply involved with that, sometimes writing about it directly in the form of journalism.
Alors, je suis un lecteur assez lent et assez impatient aussi, mais c'est vrai que ce temps que je laisse amortir entre deux romans est un temps assez privilégié pour lire ce que j'ai envie de lire. Je suis un accro des journaux et encore plus maintenant que la Grande-Bretagne traverse une crise existentielle avec le Brexit.
Some of the best reading that I do in fiction is not because I've read a review, but because someone has put a book in my hands. That old-fashioned circulation by hand, I think, still remains a vital force in this technological age. I read also scientific journals.
Je lis aussi de la fiction, mais généralement pas parce que j'ai lu une critique, mais parce qu'on m'a mis un livre entre les mains. Cette façon très traditionnelle de faire circuler les livres de la main à la main me semble encore une force vitale, même à notre époque technologique.
As I get older, I want to be told more about the world. So I find I've got a rather treacherous reluctance to be too involved with the imaginary characters of other writers, and I want the information on what physicists are thinking about the nature of time or even of matter. So I have a lot of reading of that kind. Also, many gaps in my understanding of history. So I feel like I'm sort of 10 years old, and I want to be told in the manner that most 10-year-olds do not want to be told. About the nature of things, and I think we've lived through. I wonder. I go in French bookshops I go in bookshops in London. I think we're living in a golden age of nonfiction, and I think actually one of the best things you can say about the internet is that we're living.
Et je lis aussi des revues scientifiques. En fait, je me rends compte qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus envie qu'on m'explique comment fonctionne le monde, et j'ai parfois une réticence à trop m'impliquer avec des personnages imaginaires. J'ai envie qu'on me donne des informations sur les avancées des physiciens, de la science, etc. Et donc, je me retrouve en fait vraiment à rechercher, à combler toutes les lacunes que je peux avoir dans mon rapport à l'histoire, par exemple. Un peu comme un enfant de 10 ans, mais qui est prêt à apprendre d'une manière dont, en général, qui n'est pas en général celle des enfants de 10 ans. Et puis j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui, quand je vais dans les librairies à Londres, qu'on vit un âge d'or de la non-fiction. C'est sans doute un des principaux avantages d'Internet, c'est qu'on vit véritablement un âge d'or du journalisme de forme longue. Et les apports aussi de ces publications sur Internet, mais aussi sous forme de livres, sont extrêmement intéressants. Je trouve énormément d'essais à lire qui sont tout à fait passionnants sur l'état du monde en matière de politique, de technologie, etc. Pour moi, la lecture, c'est vraiment ce qui me nourrit dans une période comme celle-ci. Et rétrospectivement, je me rends compte souvent que, en fait, j'étais en train de faire des recherches, que quelque chose, à l'issue d'une lecture, d'une conversation, va coaguler et va devenir un sujet, mais c'est pas du tout un processus conscient, en fait. On me dit, alors, tu as décidé maintenant d'écrire sur le changement climatique ou, dans ce cas-là, sur l'intelligence artificielle, mais en fait, ça ne se passe jamais comme ça. Ce n'est jamais un choix, en fait.
Vous êtes l'un des premiers écrivains à être sorti de ce qu'on appelle aujourd'hui les ateliers d'écriture, le creative writing, puisque vous avez fait des études de création littéraire à l'université d'East Anglia dans un master qui était dirigé par un grand écrivain britannique, Malcolm Bradbury, dans les années 70, vraiment au tout début de ça. Vos premières publications étaient dans le recueil de ce master. Aujourd'hui, cette façon d'entrer en littérature est devenue très commune, trop commune peut-être, trouvent certains. Quel regard rétrospectif vous portez sur cette expérience?
I'm in a lifelong struggle against a story that is simply untrue. British universities never had creative writing courses until Angus Wilson, a British novelist, and Malcolm Bradbury started their course. I would just finished my first degree. I had nothing really to do. I wanted to continue studying. I wanted to do everything to avoid getting a job. So I phoned the university one late August, and it turned out no one had applied for this course. And anyway, the course was only 1/12 of a course in comparative literature, focusing mostly on Flaubert, George Eliot and Tolstoy.
Alors en fait, je me bats depuis le, je me suis battue toute ma vie en fait contre un récit qui est faux au départ. Les universités britanniques n'avaient pas de cours de création littéraire jusqu'à ce que le romancier, c'est Angus Wilson, et Malcolm Bradbury donc lance ce programme à l'université d'East Anglia. Moi, je venais juste de terminer mon premier diplôme, je n'avais pas grand-chose à faire. Surtout, je voulais éviter de devoir trouver un travail, et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Surtout quand j'ai découvert à la fin du mois d'août qu'en fait personne ne s'était inscrit à ce cours qui venait d'ouvrir et qui ne représentait en réalité qu'un 12e d'un cursus de littérature comparée où on étudiait aussi Flaubert, Tolstoï, etc.
So I went to this course. I did all the literature, all the painting. I had meetings with Malcolm Bradbury, usually in the corridor. And he'd said, I read the last one, very good, when can I have the next one? And I went and had strawberries and cream with Angus Wilson in his country cottage. And he said, keep writing. So I was never a product of any creative writing course, but the University of East Anglia, like all universities, has a public relations department. They are very good at their job. I'm not very good at mine. And so I was never in a creative writing course. I just have to say this, but I've been saying it for 50 years.
Et donc, je m'y suis inscrit, j'ai suivi ce cours, j'avais des réunions avec, avec Bradbury, mais surtout dans les couloirs, en fait. Il me disait, oh, bah, j'ai lu, c'est bien, on continue à écrire. Je suis allée dans le cottage d'Angus Wilson, où il m'a dit pareil, continue à écrire, c'est bien. Et voilà ce qui s'est passé, tout bonnement, sauf que l'université d'East Anglia a un excellent département de la communication qui fait très bien son travail, beaucoup mieux que moi. Et que voilà ce qui en est ressorti. Et donc, ça fait 50 ans que j'explique que je n'ai jamais suivi de cours de création littéraire. Quant à ma vision sur ces cours de création littéraire, c'est qu'ils sont évidemment partout aujourd'hui. Mon point de vue, c'est que les étudiants qui ressortent de ces cours en étant de bons écrivains, ils sont arrivés en étant de bons écrivains.
And I think if you've made the effort to go to a creative writing class and you've put a year aside to do it, or 2 years, you will think differently about the work, but I don't think you can be taught anything really.
Ce que ces cours, ces programmes vous offrent, en fait, c'est du temps, c'est de la concentration, c'est aussi une attention qui vous est donnée. Moi, je savais que j'avais deux lecteurs pour les nouvelles que j'écrivais, même s'ils ne m'ont jamais donné de conseils et j'en suis ravie, je savais que je serais lue, et ça, c'est déjà quelque chose. Donc, si vous faites l'effort de vous inscrire à ce type de cursus et que vous y consacrez un an ou deux, il y a des chances que vous envisagiez ce travail et ces efforts de manière différente, mais je ne pense pas qu'on puisse vous apprendre, en fait, quoi que ce soit, à l'exception peut-être de techniques de correction, etc.
When we think back to the late 16th century, when it was the accomplishment of a French gentleman or an English gentleman to write a sonnet. Well, I think now you could say that an accomplished young adult, man or woman, in the 21st century should be able to write a novel. And not because they want to become novelists, but because, you know, it's an intellectual and emotional exercise. It requires great stamina and purpose. And it's an accomplishment. So footballers write them, and actors, and everybody writes them. And it's, I mean, we should now sort of deprofessionalize it. But on the whole, I'm, as you can probably tell, a little skeptical.
En fait, c'est un peu comme à la fin du XVIe siècle, on considérait que pour tout jeune homme, gentilhomme, anglais ou français accompli, il fallait être capable d'écrire un sonnet. Aujourd'hui, c'est comme si tout jeune homme ou jeune femme accompli devait être capable d'écrire un roman, non pour devenir un romancier, mais pour l'exercice intellectuel, pour l'énergie que ça demande, la concentration, etc. Un petit peu comme le football, en fait. C'est une forme de déprofessionnalisation. Mais vous aurez compris que je suis relativement sceptique par rapport à ces ateliers, et puisque donc j'ai cette arme de l'histoire contrefactuelle, je vous le révèle, donc je n'ai jamais suivi en réalité d'atelier d'écriture créative.
Alors, vous parliez du roman désormais comme une pratique culturelle amateur. Ça fait partie de cette mutation numérique que nous vivons, la montée en puissance des amateurs. Ça a été remarqué depuis longtemps la destruction de tous les gatekeepers, de tous les sélectionneurs, des gens qui décident qui a droit de s'exprimer ou pas dans l'espace public. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là, en particulier rapporté au milieu que vous connaissez bien, celui de l'édition, mais peut-être plus généralement à l'espace public, au journalisme, au débat public? Dans quelle mesure cette dérégulation, en quelque sorte, de l'espace public rend possible des phénomènes politiques comme celui que vous traversez actuellement dans votre pays, le Brexit?
One of the great advantages and liberations of the internet was in its earliest promise to give everyone a voice, and the great promise of citizen journalism which we had in the 90s, even though it's now somewhat disgraced with fake news and trolling and hate speech and all other kinds of abuses, I think it's still in there somewhere. We have enlarged the mental space for people who want to speak about the world. Monitoring it and filtering it, I think, has now become the problem. But there is still a lot of good stuff there.
Je pense qu'un des grands avantages, une des grandes libérations apportées par Internet, c'était effectivement la promesse initiale de pouvoir donner une voix à tous, celle du journalisme citoyen tel qu'il s'est développé dans les années 90 et qui est aujourd'hui sans doute dévoyé par les fake news, les trolls, les discours de haine, etc., mais qui est quand même toujours présent dans un espace qui s'est quand même agrandi pour l'expression. La question, c'est toujours le contrôle, le filtre, en fait, la manière dont on peut filtrer tout ça qui pose problème, parce qu'il y a toujours des bonnes choses là-dedans.
I have to say that for myself, I regard the profession of novelist as a total engagement. I mean, it is one's entire consciousness. Once you've started to think of your own thoughts in those terms, you can never escape it. It is a total mental environment. There's no union, there's no syndicat that can help you with this. It's something you impose upon yourself, but it's also an immense privilege. To be able to live by writing, which was my dream in 1970, and I already had it in 1970. The great difference, I think, I mean, just to be really practical, is that in 1970, there was no internet, there was much more solitude, that great luxury of civilization, and rents were very low.
La façon dont moi je vois la profession de romancier, en revanche, c'est celle d'un engagement total. Pour moi, c'est vraiment la conscience tout entière de l'individu qui est engagé dans cette carrière. Quand on commence, en fait, c'est quelque chose dont on ne peut plus, jamais sortir. On ne pense que comme ça. Ça devient un environnement mental global. Et il n'y a pas de syndicat pour vous aider là-dedans, mais c'est aussi un privilège de vivre de son écriture. C'était le rêve que j'avais dans les années 70 et que j'avais déjà, en plus, dans les années 70. Réalisé de façon extrêmement pragmatique. Dans les années 70, on n'avait pas Internet, on avait donc le luxe d'une certaine forme de solitude sans doute, mais on avait aussi des loyers qui étaient extrêmement bas. Avec 500 livres par an, on s'en sortait très bien. Moi, j'avais un très grand appartement dans le sud de Londres dont le loyer était ridicule, et je pouvais écrire simplement une chronique toutes les 6 semaines pour le Times, qui à l'époque vendait 7 millions d'exemplaires. J'étais payé 150 livres et ça me permettait de tenir 6 semaines.
That's much harder now for writers. Much, much harder to survive without having to teach or do some other job and find that time. And also not to have the constant invasion of the digital age. So my sense of dedication was learnt in the 70s and 80s, in that larger mental space. And I think we must draw
c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour les écrivains de survivre sans enseigner, etc., et de ménager le temps nécessaire à cela, d'autant plus qu'il y a toute cette invasion de l'ère numérique. Donc moi, cet investissement dans l'activité d'écrivain, je l'ai appris vraiment dans les années 70-80. Après, je pense qu'il est vraiment important de distinguer les hommes et les femmes qui s'investissent réellement, justement, et qui se consacrent entièrement à cette activité, et ceux qui le font quelque part un peu pour faire joli, parce que c'est un accomplissement d'avoir publié un livre. J'ai rien contre, mais encore une fois, un footballeur qui écrit un roman, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Moi aussi, j'aimerais bien me mettre au foot, mais j'espère qu'il y aura quand même quelqu'un qui songera à m'en empêcher avec un petit tacle dans la cheville.
It is a profession. I mean, it is a totality, and I think the same is true of poetry. The poet, I read a fair bit of poetry, and the poets I want to read are people who've dedicated and declared themselves. As really to do nothing else. Everything else in their life is secondary to their art.
C'est comme la poésie, en fait. La poésie, j'en lis énormément. Et les poètes que j'ai envie de lire, ce sont ceux qui sont réellement investis dans leur art et qui se déclarent poètes avant tout et poètes uniquement, en fait, et pour qui tout le reste devient secondaire, alors que pourtant, il y a énormément de poésie qui est écrite par des gens qui pensent que tout le monde peut écrire de la poésie. T.S. Eliot disait que si on n'avait pas commencé à 22 ans, il était trop tard pour devenir poète. Je suis sûre qu'il y a énormément de preuves du contraire, mais j'aime l'idée que ça doit être un engagement total, que ça doit être véritablement le moule dans lequel votre conscience est façonnée.
Novelists can't become poets, and poets, on the whole, write terrible poetic novels. In my case, very few good novelists become good poets. I mean, we have Thomas Hardy, but that was a long time ago. I don't know who you would pose.
Victor Hugo.
Yeah. Victor Hugo sits across my childhood like a dark force, because to the English ear, the Alexandrine is so difficult. And we always were told to learn from Ennani, des hommes chez ma nièce à 7h de la nuit. And we have des hommes chez ma nièce à 7h de la nuit. Whereas we were used to the 5-foot
line. Et je pense que les romanciers, en général, n'écrivent pas de très bons poèmes et que les poètes ne sont pas non plus de très bons romanciers. Il y a peu d'exemples du contraire. On a eu Thomas Hardy il y a longtemps. Effectivement, Victor Hugo, qui, à l'oreille des Anglais, je me souviens, gamin, d'avoir essayé d'apprendre l'alexandrin, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe pour nous à saisir. Nous, on est habitués aux vers de 5 pieds. Les accents aussi sont extrêmement différents. Le français a cette manière très fluide, sans couture, avec très peu d'accent, en fait, qui est extrêmement séduisante aux oreilles des Anglais, mais c'est un tout autre sujet.
En vous entendant parler de poésie, Ian McEwan, une nouvelle fois, j'ai ce sentiment que j'ai éprouvé plusieurs fois en interrogeant des écrivains britanniques, des romanciers britanniques, que la poésie, c'est un autre continent, c'est autre chose. Le premier à m'avoir dit ça clairement, c'est quelqu'un que vous connaissez bien depuis longtemps, Martin Amis. Et en l'entendant parler de poésie, j'ai tout de suite compris que pour lui, la poésie, c'était au-dessus, bien au-dessus de la littérature, que c'était quelque chose que jamais il n'atteindrait et une pratique pour laquelle il avait un immense respect. Pour un Français, c'est étonnant, cette manière de regarder les choses. On a plutôt l'impression que la poésie, le roman font partie d'un même univers, la littérature. Il y a quelque chose de sacré à propos de la poésie dans la culture anglaise encore aujourd'hui.
Yes, Martin and I used to spend a lot of time together in our 20s talking about poetry and reading to each other from our favorite poems. Our spirit was always in celebration, and I think we were of agreement that poetry was, in Martin's word, the senior service. That it represents the highest representation of mental states or of, yes, of,
Martin et moi, on se voyait effectivement beaucoup quand on avait la vingtaine et on parlait énormément de poésie. On se lisait mutuellement nos poèmes préférés, toujours dans un état d'esprit de célébration de la poésie. Et on était tous les deux d'accord pour dire que la poésie était le sommet, vraiment le summum de cet art. Quels étaient les mots de Martin Amis? Je ne les ai pas entendus.
Senior service.
C'était le nom d'une cigarette.
D'un paquet de cigarettes, c'est aussi le titre d'un morceau d'Elvis Costello, assez célèbre.
Donc voilà, merci pour l'explication. On était tout à fait d'accord en tout cas pour dire que c'était le plus haut niveau d'état d'esprit mental que pouvait atteindre la langue. En fait, le roman pour nous se développe avec toutes les imperfections de la vie. C'est le livre de la vie quelque part, alors que la poésie avait cette vocation d'essayer de toucher à la pureté des aspirations qui nous semblaient plus élevées. Je pense qu'on n'a pas changé de point de vue. Probablement, ce qui peut nous aider d'un certain réconfort, c'est que les romanciers sont généralement plus riches que les poètes. Martin a d'ailleurs écrit une nouvelle dans un monde contrefactuel, encore une fois, dans laquelle il imagine des poètes qui sont aussi riches que les scénaristes de hollywoodiens ou de séries télé.
Beaucoup plus riches.
Même beaucoup plus riches. Et donc je pense que cette idée lui est venue justement des discussions qu'on pouvait avoir à l'époque. Il y a très peu de poètes aujourd'hui qui vivent de la poésie. Ils sont tous obligés d'enseigner ou d'avoir toutes sortes d'autres activités. Il y a un poète anglais, Seamus Heaney, qui vit aujourd'hui de sa poésie, dont l'un des recueils de poèmes s'est vendu à 40 000 exemplaires, ce qui est énorme, mais ce qui reste encore relativement négligeable en termes d'impact civilisationnel. Ça reste confiné quand même à un petit nombre de personnes. Donc je garde vraiment cette idée qu'il n'y a pas de fluidité nécessaire entre le monde du roman et celui de la poésie, et que les plus audacieux de tous, ce sont les poètes, et qu'il faut leur rendre hommage.
Alors, puisque vous parliez de Martin Amis et de ses années 70, je vais vous poser la question, peut-être pour vous donner l'occasion, comme pour le creative writing, de nous expliquer qu'il s'agit là de légendes. Mais c'est vrai qu'il a été beaucoup dit plus tard que vous avez fait partie dans ces années 70 d'un groupe de jeunes écrivains qui sont venus un petit peu bousculer le paysage littéraire britannique. Vous, Martin Amis, mais aussi Salman Rushdie, Julian Barnes, vous écriviez dans les mêmes journaux, dans le New Statesman, vous dans le Radio Times, mais vous écriviez à l'époque dans le TLS pour gagner votre vie, tout en publiant vos premiers textes à peu près en même temps. Est-ce que là encore, c'est une légende ? Quelle est la part de vérité ? Et comment vous regardez rétrospectivement ces années 70 où l'édition britannique a, pour le coup, vraiment été renouvelée assez profondément par votre génération ?
Well, looking back at that time, when the country was falling apart politically, even more then, I think, than now. And we were just thrilled to be alive and having the time of our lives, just publishing our first books in the mid-70s. 1974 was Martin's first book, 75 was mine. Julian was a little later, 1980, with Metroland. Salman burst onto the scene with his second book, not his first, with Midnight's Children. We were never a school in the way that I think of some French writers who gather around a manifesto would operate. And actually, there was a kind of politesse where we didn't discuss our own writing with each other, ever. It would have been bad taste. We talked about anyone who was not in the room.
Quand je reviens sur cette époque-là, qui était une époque où politiquement le pays était en plein effondrement, hein, en fait encore plus sans doute qu'aujourd'hui, nous, on était simplement enthousiastes d'être en vie, on s'amusait beaucoup, on publiait effectivement nos premiers livres au milieu des années 70. Martin Amis, c'était donc 1974, le mien 1975, Julian Barnes un petit peu plus tard en 80, et puis Salman a fait irruption sur cette scène avec son deuxième livre, non pas le premier, avec Les Enfants de Minuit. Mais ça n'a jamais été une école littéraire au sens peut-être français du terme d'écrivains rassemblés autour d'un manifeste. En fait, il y avait une forme de courtoisie entre nous qui était qu'on ne discutait jamais de nos œuvres ensemble, en fait. Ça aurait été de très mauvais goût. On parlait de tout le monde, sauf des œuvres des personnes qui étaient présentes, donc il était risqué de ne pas sortir le soir pour rejoindre le groupe. Celui sans doute dont j'ai été le plus proche, c'était effectivement Martine. On buvait beaucoup à l'époque, on fumait beaucoup de marijuana. On parlait parlait des choses qu'on aimait, mais on n'était pas dans un esprit de critique ou de destruction. C'est pas comme ça que je m'en souviens par rapport à nos aînés, même si c'est vrai que peut-être tous les deux on avait plus d'admiration pour les écrivains américains et peut-être qu'on s'intéressait moins à la génération d'avant nous qui, parce que leur vie avait été principalement dominée par la Seconde Guerre mondiale, nous semblait plus insulaire, ne s'intéressait pas justement aux écrivains américains, à des gens comme Updike, au réalisme magique qu'on trouve en Amérique latine, etc. Et puis Martin maintenant est à New York, donc je le vois moins, je vois plus souvent Julian Barnes. Salman aussi est à New York. En fait, beaucoup de mes amis se sont évanouis pour disparaître à New York, à tel point que les rues de Londres aujourd'hui sont vides et qu'on n'y trouve plus que des petits buissons qui tourbillonnent comme dans les westerns. Mais en tout cas, on n'a jamais discuté de notre propre travail ensemble, ce qui rétrospectivement peut sembler assez bizarre. Ça nous aurait vraiment paru étrange et surtout de très mauvais goût d'arriver en disant « je viens d'écrire quelque chose de super, est-ce que tu veux le lire ?»
La littérature américaine, on l'a compris, a été une influence importante pour ce groupe, mais pour vous en particulier. Vous mentionniez John Updike, Saul Bellow comme les auteurs sans doute les plus importants. Mais à côté de la littérature, on parle des années 70, là, le début de votre travail d'écrivain. Quels autres types d'influences avez-vous avez-vous rencontré? On est dans une époque où la musique joue un rôle considérable à Londres, où une forme nouvelle de cinéma apparaît aux États-Unis. Quel rapport vous entreteniez à ces formes de création?
The major literary influence right at the very, very beginning for me was Kafka, and to a lesser extent Thomas Mann. And also Camus was very powerful. The first novel of his that I read was La Peste, and then I read everything. So that was very strong for me. A little later in the 70s, I read a lot of Peter Handke, strangely enough, and I had never read him since. And then suddenly he appears before us in a rather complex and ambivalent moral appearance with the Nobel Prize. So I was quite interested in a lot of existential writing in which one never referred to mental states, only what you could see and hear. So I went down what I later began to feel as was false paths, but I loved the first writings of Rob Grier, for example. I met him in Australia, and we had actually a wonderful time together. As for the music, well, mid-70s, punk arrived, and I belong to a rock and roll generation. So for me, the arrival of punk was like the end of my childhood. I suddenly hated it. I still rather like it much more now, but at the time it just seemed so crude and loathsome. But there was a little space from about 1972 to 1974 where many pubs in London, it was called pub rock, and there was bands like Rugulator and Enduring the Blockheads and bands like that who had none of the pretense of glamorous rock and roll or anthem rock and roll. They were guys mostly in jeans and t-shirts who were wonderful musicians.
Alors la plus grande influence pour moi littéraire vraiment au départ, ça a été Kafka, dans une moindre mesure Thomas Mann et puis aussi Camus. Le premier que j'ai lu c'était La Peste, ça me semblait extrêmement ça a été une influence extrêmement puissante. Ensuite, j'ai tout lu. Plus tard dans les années 70, j'ai découvert Peter Handke, ce qui est étrange et que j'en ai pas relu depuis et qu'il réapparaît aujourd'hui dans ce contexte moral assez ambigu avec ce prix Nobel. Et puis vraiment ce qui m'intéressait à l'époque, c'était tout ce qui était l'écriture existentialiste, c'est-à-dire cette façon d'écrire sans aborder l'état d'esprit, mais en ne décrivant que ce qui pouvait être être vu, ce qui pouvait être entendu. Je me suis beaucoup intéressée à l'époque à des écrivains qui derrière ont pu prendre des routes différentes, comme Rob Grier, dont j'aimais les premières œuvres, que j'ai rencontré aussi en Australie d'ailleurs. On avait passé un très bon moment ensemble. En ce qui concerne la musique, le milieu des années 70, c'est l'arrivée du punk, et moi ma génération c'était celle du rock'n'roll. Donc en fait l'arrivée du punk a marqué vraiment la fin de mon enfance, et j'ai détesté ça. J'aime plus aujourd'hui en fait, mais à l'époque je trouvais ça vraiment trop brut et assez détestable. Mais il y a eu une période bénie entre 1972 et 1974 où il y avait énormément de pubs à Londres dans lesquels on pouvait écouter ce qu'on appelait à l'époque le pub rock, avec des groupes comme The Blockheads par exemple, qui étaient des rockers pas du tout dans le glamour comme on pouvait voir chez d'autres plus tard, mais qui étaient tout simplement en jean, en t-shirt, qui étaient juste d'excellents musiciens, et pour le prix d'une pinte on pouvait assister à un formidable concert en étant à quelques mètres des musiciens et en se prenant le son en pleine figure. Tout ça a disparu complètement avec l'arrivée du punk, qui les a vraiment balayés du jour au lendemain, hein, comme une civilisation disparue. Et je garde le souvenir de ces soirées comme étant les meilleures soirées des années 70 pour moi, à Camden ou à Kensington, dans ces pubs. En ce qui concerne le cinéma, j'ai beaucoup apprécié Bertolucci. Ensuite, je l'ai rencontré en 79, et ensuite, on a travaillé ensemble. On a fait un film politique dans lequel Thatcher jouait un rôle sans le savoir, en fait, sans en être consciente. On a travaillé aussi ensemble sur une adaptation d'un roman d'Alberto Moravia qui finalement n'a pas abouti, mais qui m'a permis, pendant un long travail avec Bertolucci, vraiment de découvrir, de m'éduquer à ses goûts en matière de cinéma, de découvrir Lubitsch ou des gens comme ça. Et en fait, tout ça s'est passé au début des années 80, à un moment où j'ai eu une espèce de mouvement de rejet de ma propre écriture, de mes propres œuvres, parce que j'étais dans des romans qui me semblaient claustrophobes, un peu étriqués, toujours dans une certaine forme de violence et de psychopathie, qui fait que je me suis tournée à ce moment-là justement vers l'écriture de scénarios. J'avais l'impression d'être pieds et poings liés avec ce roman existentialiste et de ne pas être en mesure d'explorer toute l'étendue de ce que le roman pouvait faire. J'étais toujours coincée avec ces narrateurs un peu bizarres et psychopathes. Et c'est le moment justement où j'ai écrit un oratorio avec le compositeur anglais Michael Bartley, c'est ça ? Où j'ai écrit justement ma première pièce, où j'ai écrit et j'ai travaillé avec Bertolucci. Ça a duré 3-4 ans et ça m'a permis de revenir ensuite au roman beaucoup plus frais, avec la capacité à explorer des nouvelles directions, justement l'histoire, l'état du monde, les évolutions de la conscience et toutes sortes de choses que jusqu'à présent je n'incorporais pas dans mon écriture. Et c'est vraiment le moment pour moi où les années 70 ont pris fin.
1982, où les choses auraient pu donc s'écrire différemment si Ian McEwan n'était pas retourné au roman. Cette année 1982 qui est au cœur de ce nouveau roman et aussi une année un peu charnière dans son travail. Alors je m'abstiendrai de poser la dernière question, puisque d'une certaine façon Ian McEwan y a répondu en disant tout à l'heure que quand il a terminé un roman, il n'a plus rien en tête et il ne sait absolument pas ce sur quoi il va écrire. Donc je me garderai bien de lui demander ce sur quoi il travaille. J'imagine qu'il lit beaucoup et des choses très variées pour comprendre ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Merci beaucoup Ian McEwan, merci à Marguerite Capel pour la traduction et merci pour votre attention.
C'était la masterclass d'Ian McEwan avec Sylvain Bourmeau. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Pascaline Bonnet, prise de son Sébastien Huel, Alexandre James, coordination technique Francesca Fossati, réalisation Clotilde Pivin.